Bonsoir à toutes et à toutes. J'aimerais commencer par remercier le Centre de droit public de l'ULB de m'accueillir avec une autre casquette que celle qui fut la mienne à l'époque, celle d'étudiant. Et je souhaite tout particulièrement remercier celui qui fut le directeur de mon mémoire, ce mémoire qui a donné lieu à la publication sur laquelle je vais me baser aujourd'hui, le professeur Goffo, pour son aimable invitation à venir vous parler d'un sujet qui est un peu mon dada. Je ne suis pas le seul, mais j'en fais partie également. Et donc, fort logiquement, j'ai intitulé cet exposé « La laïcité dans l'ordre constitutionnel belge ». Ce que j'ai essayé de faire, c'est offrir une approche dans un débat très polémique, très dynamique aussi, mais souvent basé sur des échanges d'arguments d'autorité, souvent basé sur un échange de bons procédés en termes de slogans qui sont renvoyés par les différentes parties les unes aux autres, et bien de produire un travail académique sur ce sujet. J'ai voulu m'interroger sur la question de savoir ce que les textes disent. Finalement, qu'est-ce que les textes disent aujourd'hui, tels qu'ils sont en vigueur en Belgique, sur ce sujet. Donc j'ai essayé d'appuyer systématiquement, en tout cas chaque fois que j'ai pu le faire, ma recherche sur de la doctrine, sur de la jurisprudence, mais également sur l'ordre constitutionnel lui-même, qui n'est pas réductible à la Constitution, mais dans la Constitution, est également la pièce maîtresse. Alors je vais articuler l'exposé en deux temps. Dans un premier temps, je vais revenir sur une série de principes pour que vous puissiez situer l'endroit à partir duquel je parle et comment je conçois la laïcité. Qu'est-ce que pour moi ça veut dire ? Et puis, dans un second temps, j'en viendrai aux points d'achoppement qui font l'objet du débat en Belgique sur la question de savoir s'il faut qualifier l'État belge d'État laïque ou pas. Et pourquoi il y a des réticences ? Est-ce qu'elles sont justifiées ? Que faut-il en penser, encore une fois, sur la base des textes ? Alors, je vais aller de but en blanc et vous donner ma définition de la laïcité. Parce que pour moi, c'est un principe politique. Ça n'est pas une idéologie. J'ai utilisé le mot idéologie un peu plus loin, je vais parler de conviction philosophique. Pour moi, ça n'est pas une idéologie, ça n'est pas une conviction philosophique. C'est un principe politique. Et pour moi, ça n'est que ça. Et c'est déjà beaucoup. Et ce principe politique, c'est un mode d'organisation de l'État qui repose sur un faisceau d'autres principes. En d'autres termes, je suis de ceux qui considèrent que la laïcité, c'est un mot qui, s'il n'est pas agrémenté, nourri d'une série de choses, n'est que ça, un mot, une coquille vide. Pour qu'on puisse véritablement parler de laïcité, il faut remplir ce concept. Et on le remplit de quoi, selon moi ? C'est l'égalité d'une part, c'est la non-discrimination d'autre part, c'est la liberté également. Et la liberté, c'est en ce compris la liberté religieuse. Et quand on parle de liberté religieuse, c'est la liberté de croire, de ne pas croire, de croire puis de ne plus croire, de croire, de ne pas croire puis de recommencer à croire, de croire, de montrer qu'on croit, de croire et de choisir de ne pas montrer qu'on croit. C'est tout ça, en réalité, la liberté religieuse, liberté qu'on réduit un peu trop souvent à une visibilité dans le chef de certains citoyens dans la société. La liberté, je l'ai dit, la séparation, et j'ai tendance à privilégier à la formule séparation celle de non-ingérence réciproque. Je pense que le mot « séparation » est en soi un facteur qui est source de confusion sur ce que signifie véritablement le principe de laïcité. Pour moi, en réalité, ça signifie la non-ingérence réciproque entre l'État d'une part et les institutions religieuses d'autre part. Chacun est dans son rôle. Et enfin, le pluralisme, mais le pluralisme ne fait que découler de ces autres principes dès lors que ces autres principes sont réunis. Ce qui m'amène à dire que la laïcité et la liberté religieuse, contrairement à une certaine conception qui a quand même pignon sur rue, ça n'est en rien contradictoire. Il n'y a aucune tension à alimenter entre d'une part la laïcité et la liberté religieuse. La laïcité implique nécessairement la liberté religieuse et la liberté religieuse implique nécessairement la laïcité. Par ailleurs, avoir une foi, donc adhérer à une conviction philosophique en tant que telle, ça n'est pas contradictoire avec le fait de se revendiquer de la laïcité. C'est la raison pour laquelle, devant certains auditoires un peu plus marqués, j'ai tendance à commencer par dire que je suis un laïc musulman. je dis que je suis un laïc musulman, un laïc de confession musulmane. Mais parce que je considère que l'un est un principe politique qui repose sur l'égalité, la non-discrimination et la liberté, l'autre c'est une façon, c'est une préférence convictionnelle, c'est une foi, c'est une confession, et on ne parle pas de choses qui sont à un même niveau. Donc pour moi, il n'y a pas de contradiction entre les deux. Par ailleurs, je reviens sur cette formule qu'on retrouve à peu près dans les forums de n'importe quel journal écrit. Oui à la religion, mais dans la sphère privée et sous-entendu entre les quatre murs de votre chez vous. En réalité, la liberté religieuse n'a de sens que si elle peut s'exercer en public. Sinon, c'est un succès d'année de liberté, c'est une illusion de liberté. Et donc, je l'ai dit, toute atteinte à la liberté religieuse est selon moi une atteinte à la laïcité. Par ailleurs, la laïcité, c'est un bien commun. Ça n'est pas une conviction philosophique selon moi, c'est tout au plus un mode d'organisation de l'État qui vise à garantir la liberté d'expression de toutes les convictions philosophiques. Quelque chose qui échappe à ce jeu de la concurrence entre les différentes convictions, mais qui permet à chacune de ces convictions de pouvoir jouer le jeu de la concurrence, de la persuasion, de la conviction dans la société. C'est aussi la raison pour laquelle, et je continue à aller, je pense, dans le vif du sujet sans tourner autour, je suis de ceux qui considèrent que, par exemple, une formule comme laïcité philosophique, pour cette raison même, est un non-sens. La laïcité philosophique, et il suffit de lire l'article 4 des statuts du Centre d'Action Laïque, j'y reviendrai, pour avoir une définition de ce qu'est la laïcité philosophique. Et de mémoire, on y retrouve des mots tels que l'élaboration personnelle d'un mode de vie, à l'exclusion de toute forme de dogmatisme, de surnaturel. Pour moi, ça renvoie à une conviction philosophique en part entière, l'athéisme. Alors, et ou l'agnosticisme, ce genre de discussion, de précision terminologique, évidemment, on peut la mener, mais le résultat est que ce à quoi on fait référence, c'est une conviction philosophique. Et donc, clarifier le débat, c'est aussi préciser ce qu'on entend avec les termes qu'on utilise. Mais donc la laïcité, c'est quelque chose qui n'appartient à personne et qui, pour cette raison même, appartient à tout le monde. C'est pour ça que c'est un bien commun. Par ailleurs, la laïcité n'a pas vocation à avoir des représentants. Alors, on reviendra sur la réalité institutionnelle belge qui semble me donner tort sur cette question. J'y reviendrai, mais je continue à penser que la laïcité, étant un bien commun, étant quelque chose qui n'est pas une conviction philosophique, n'a pas vocation à avoir des représentants, n'a pas vocation à avoir une institution représentative, n'a pas vocation à avoir des porte-paroles, qu'ils soient officiels ou officieux d'ailleurs. Et donc, je suis également de ceux qui considèrent que la laïcité, telle que ainsi définie, renvoie à un autre mot qui est la neutralité. Donc je n'adhère pas à cette dichotomie qu'on établit ou que d'aucuns établissent entre les deux. Il y aurait la laïcité d'un côté et la neutralité de l'autre, ça n'aurait rien à voir. C'est ce qui pousse d'ailleurs une série d'intervenants à dire « Attention, la Belgique, ne la confondons pas avec la France, la Belgique est un État neutre. La France est un État laïque. » Je récuse cette dualité qui est établie. Pour moi, dire que la Belgique ou n'importe quel autre État d'ailleurs est un État neutre, c'est dire que cet État est un État laïque. J'y reviendrai évidemment. Alors cela étant dit, qu'en est-il de ces ingrédients qui constituent le plat laïcité en Belgique ? Dans mon livre, je renvoie par souci pédagogique à des métaphores culinaires. J'ai moi-même beaucoup de peine à cuisiner, mais ça me paraît assez parlant. La laïcité, c'est un plat. Mais pour qu'on ait le plat laïcité, il y a des ingrédients qui doivent être réunis. Vous ne pouvez pas appeler le plat un tel s'il y a un des ingrédients fondamentaux qui manque. C'est aussi simple que ça. Et donc, vous ne pourriez pas avoir de laïcité s'il n'y a plus de non-discrimination. Vous ne pourriez plus avoir de laïcité s'il n'y a plus de liberté. Vous ne pourriez plus avoir de laïcité s'il n'y a plus d'égalité. Et ce sont des conditions cumulatives. Ce n'est pas « je prends ce qui m'arrange, je fais mon shopping ». Il faut que l'ensemble des critères cumulatifs soient réunis. Et donc, qu'est-ce qu'il en est en Belgique ? Alors là-dessus, comme je n'ai face à moi pas que des juristes, je vais essayer de ne pas aller trop trop vite. L'égalité et la non-discrimination, on le voit bien, ce sont les articles 10 et 11 de la Constitution, qui très clairement consacrent ces deux principes, mais pas seulement. L'effet utile donné à ces deux principes se matérialise, se traduit par l'existence d'une législation antidiscrimination très poussée. La Belgique n'est pas parfaite sur ce plan, mais est à la pointe de la lutte contre les discriminations sur le plan institutionnalisé, puisqu'il existe un organisme public qui s'appelait le Centre interfédéral pour l'égalité des chances, depuis récemment UNIA. Et donc, non seulement on a mis en place des législations pour donner un effet utile à l'égalité et à la non-discrimination, mais on a aussi mis en place un organisme public spécifiquement chargé de donner un effet utile à ces principes et, le cas échéant, même d'ester en justice pour rappeler ces principes. Il existe des organismes assez similaires en France, en Suisse, aux Pays-Bas, mais ils n'ont pas cette possibilité d'ester en justice. C'est vous dire jusqu'où on est allé en Belgique pour donner un effet utile à ce principe. Qu'en est-il de la liberté religieuse? Eh bien, ce sont les articles 19, alors on en entend beaucoup parler de l'article 19, mais également l'article 20 de la Constitution. En fait, la liberté de croire, d'exercer sa croyance en se compris en public, c'est l'article 19, d'accord. Mais c'est ce qu'on pourrait appeler la liberté religieuse active. Il y a également la liberté religieuse passive, celle de ne pas croire, et a fortiori de ne pas avoir à pratiquer une quelconque croyance. Tout ça fait partie du package liberté religieuse, ça n'est pas une dimension à l'exclusion de l'autre. Et donc, un effet très clair a été donné à la liberté religieuse dans notre Constitution. Et puis, la séparation entre les Églises et l'État, ce que moi j'appelle la non-ingérence réciproque, ça me paraît beaucoup plus pédagogique, beaucoup plus clair sur ce que ça signifie. C'est l'article 21 de la Constitution, le paragraphe 1er d'une part, le paragraphe 2 d'autre part. En fait, pourquoi non-ingérence réciproque? Parce que l'article 21, paragraphe 1er, intime à l'État de ne pas s'ingérer dans le fonctionnement interne des institutions religieuses, et trouve son pendant dans le paragraphe qui suit, le paragraphe 2, qui consacre la prédominance, en tous les cas, l'exclusivité du pouvoir civil, de l'autorité civile, pour établir les règles de vie commune. En d'autres termes, ça n'est pas le représentant de je ne sais quelle institution religieuse qui doit s'improviser parlement, c'est le parlement qui adopte les lois. Et donc le principe de séparation, c'est pour ça que j'en parle en des termes un peu différents, parce que séparation renvoie à une espèce de tension, ne fût-ce que potentielle, et à une nécessité d'étanchéité stricte et absolue. Alors que pour moi, fondamentalement, l'aiguillon n'est pas là. L'aiguillon, c'est le fait que l'un ne s'ingère pas dans les affaires de l'autre. Ce qui est subtil, mais c'est différent, et c'est fondamentalement différent. Mais alors, dans la mesure où ces différents ingrédients du plat laïcité sont assez clairement consacrés par la Constitution, mais également par une série de législations, c'est quoi le problème? Bien, les quelques arguments clés qui sont avancés pour récuser le caractère laïque de l'État belge, je les ai listés de la façon suivante. La Belgique ne serait pas un État laïque parce qu'il y a absence d'interdiction générale et absolue du port de signes convictionnels, aussi bien dans l'enseignement que dans la fonction publique. Il y a en Belgique reconnaissance et financement public des cultes, et je vais nuancer, parce qu'en réalité, je considère qu'en Belgique, ça n'est pas un ou des cultes qu'on reconnaît. C'est autre chose qu'on reconnaît. J'y viens. Eh bien, ce serait une raison rédhibitoire en vertu de laquelle la Belgique ne pourrait certainement pas être qualifiée d'État. L'organisation de cours philosophiques, des cours de religion, grosso modo dans l'enseignement officiel, ça disqualifierait la Belgique en tant qu'État potentiellement laïque. La participation des pouvoirs publics à des cérémonies religieuses, le plus connu étant le Tédéum, et la présence de l'autre côté, et la participation des institutions religieuses aux règles protocolaires. Je vais développer tout ça. Et enfin, le marronnier depuis quelques années, cette espèce de cerise sur le gâteau du débat, à savoir le mot laïcité, on ne le retrouve pas dans la Constitution. Merci, au revoir, la discussion est terminée, la Belgique n'est pas un État laïque, forcément, sinon le mot se trouverait dans sa Constitution. Eh bien, développons un peu. Et pour développer, c'est ce que j'ai essayé de faire dans mon livre, j'ai fait un parallèle systématique entre l'État belge et l'État français, pour à peu près chacune de ses composantes. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est une façon de raisonner par analogie. Dans la mesure où ce sont des éléments qui amènent certains intervenants du débat public à récuser pour la Belgique son caractère de laïque, c'est fait en opposition à la France qu'on présente comme le parangon dans certains cercles en termes d'État laïque. La France est, au-dessus de toute forme de débat possible, un État certainement laïque. Et cette espèce de dichotomie, de dualité qui permet de dire l'un l'est, l'autre pas, et c'est ça qui amène une série d'intervenants à dire bah, la Belgique est un État neutre et la France est un État laïque. Bien, réinterrogeons tout ça. Il est vrai qu'en Belgique, à l'heure actuelle, en tous les cas, il y a absence d'interdiction générale et absolue, que ce soit dans l'enseignement ou la fonction publique. Alors sans rentrer trop dans cette dimension du débat hein, qui occupe déjà largement l'actualité, mon point de vue sur la question est que le nœud du débat, c'est évidemment ce qu'on appelle la neutralité de l'apparence. En d'autres termes, il n'y a pas vraiment de désaccord sur le fait que la neutralité concerne bien évidemment les actes posés par le fonctionnaire. Là, il n'y a pas vraiment de débat. En revanche, pour certains intervenants du débat public, pour être parfaitement neutre, le fonctionnaire doit aussi l'être dans son apparence, ce qui présuppose qu'il y aurait une apparence neutre. Je considère très clairement que la neutralité, et vous comprenez pourquoi j'utilise le mot neutralité, j'aurais pu parler de laïcité, je considère que ce sont des synonymes. Ça concerne le service rendu, absolument pas l'apparence, pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas une apparence objectivement neutre. Il n'y a pas une autorité quelque part qui pourrait, du haut de sa tour d'ivoire, décréter que ça, là, ce qu'on voit, c'est une apparence neutre et les autres non. En réalité, il y a tout au plus des façons subjectives de considérer que telle ou telle apparence serait neutre. Mais comme ça reste subjectif, que ça varie d'individu à individu, il faut donc revenir vers le dénominateur commun, vers ce qui est véritablement objectif, à savoir le service rendu, les actes posés. Ça peut être quantifié, vérifié, mesuré, ça peut être soumis à recours, à contestation, pour que d'autres puissent vérifier si cette neutralité a été correctement appliquée. Toujours est-il qu'en Belgique, il n'y a pas d'interdiction générale et absolue. Mais qu'en est-il en France? En France, jusque 2004, s'agissant de l'enseignement public, et grosso modo jusque 2006, s'agissant de la fonction publique, il n'y avait pas non plus d'interdiction générale et absolue en tant que telle. Il y avait des pratiques, mais ces pratiques existaient et existent toujours en Belgique également. Il y a des décisions locales, il y a des initiatives localisées dans le sens d'une série de limitations de cette liberté religieuse. Mais il n'y a pas en tant que telle une norme générale absolue en France jusque 2004 pour l'enseignement et jusque 2006 par rapport à la fonction publique. Est-ce à dire qu'avant ça, la France n'était pas un État laïque? Bien sûr que non. Ça paraît comme assez peu pertinent. La France a toujours été considérée comme un État laïque et la loi dite de laïcité, la loi de 1905, n'avait pas une assise suffisante pour fonder un point de vue d'interdiction. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a spécifiquement adopté des législations pour aller dans ce sens. Et donc, dire que sous prétexte qu'il n'y a pas d'interdiction générale, absolue, ça disqualifierait l'État pour le considérer comme un État laïque, ça n'est pas un argument recevable. Quid de la reconnaissance et du financement? Alors, je l'ai dit, il y a en Belgique une série de cultes reconnus. En fait, il y en a 6 plus 1 aujourd'hui. Même si d'éminents constitutionnalistes, on parle de 7 cultes, dont un qui est une religion de trop, pour paraphraser une opinion parue dans Le Soir il y a quelques années. Je considère qu'il y en a 6 plus 1, le catholicisme, le protestantisme. C'est fort à propos, ça. Ça concerne directement le débat d'aujourd'hui. Je le disais, le catholicisme, le protestantisme, le culte israélite, l'anglicanisme, l'islam, le culte orthodoxe et ce que l'on a appelé la laïcité organisée. Bon. En réalité, en 2002, ce qu'on a reconnu, ça n'est pas quelque chose qui s'appelle laïcité organisée. Ce qu'on a reconnu, c'est un organe qui est le Conseil central des communautés philosophiques non confessionnelles de Belgique. Dans le jargon et la terminologie courante, on a appelé ça la laïcité organisée. En d'autres termes, il y a un mouvement de la laïcité qui serait reconnaissable, et d'ailleurs qui a été reconnu. Donc, on semble être à l'opposé de ce que j'expliquais en introduction, puisque je disais que la laïcité n'a pas vocation à être reconnue et à avoir des représentants. Cette laïcité organisée, c'est le CAL d'une part, le Centre d'action laïque du côté francophone, c'était l'UVV jusque récemment, c'est devenu domens.nu, domens nul, l'humain maintenant, du côté néerlandophone. Alors, sur quoi porte la reconnaissance? Et c'est pour ça que je pense que la Belgique ne reconnaît pas des cultes. L'État ne reconnaît pas le dogme. L'État ne reconnaît a fortiori pas un bon dogme. Ne dit pas, vous, communauté convictionnelle, vous êtes fréquentable, vous me plaisez, je vais vous reconnaître. L'État ne dit pas non plus, au sein du courant convictionnel A, c'est cette école-là que je reconnais. Ça n'est pas ça ce qu'on appelle la reconnaissance. La reconnaissance porte sur le fait de considérer comme un interlocuteur un organe, et un organe dont la mission est la gestion du temporel des cultes. En Belgique, on ne reconnaît pas des cultes, on reconnaît un organe chargé de gérer le temporel du culte concerné. Donc en Belgique, en réalité, en 1974 par exemple, on n'a pas reconnu l'islam. On a reconnu une forme d'institutionnalisation qui consiste à produire un interlocuteur pour l'État par rapport à quoi ? Par rapport aux besoins matériels d'une communauté convictionnelle. Donc on n'a pas dit « je reconnais telle école, tel courant », on a dit « en leur sein, les citoyens belges de confession musulmane s'organisent pour produire un interlocuteur qui va s'occuper de certains dossiers. » Et je n'invente rien, il suffit d'aller lire la loi de 1974 pour retrouver la liste limitative des missions dévolues à cet organe chargé de la gestion du temporel du culte. Et en réalité, le fait de ne pas reconnaître un quelconque bon culte, il faut remonter, selon moi, à un arrêt de la Cour de cassation de 1834, qui n'a pas pris une ride. Il y en a des choses qui ont pris des rides dans notre État, mais cet arrêt n'a pas pris une seule ride. C'était un cas où la Cour a été amenée à s'interroger sur la fréquentabilité ou sur le caractère acceptable d'une certaine forme de religiosité, et l'État a rappelé que ça n'est pas sa mission de dire la bonne façon de vivre une foi, la bonne façon d'exercer une religiosité, ça n'est pas sa mission. Logique, principe de séparation Église-État, en d'autres termes, principe de non-ingérence réciproque entre les Églises et l'État. Et tout ça, ça remonte, ce qu'on appelle la gestion du temporel des cultes, à une loi de 1870, la loi sur le temporel des cultes. C'est pas plus compliqué que ça, c'est son intitulé. Et une série de cultes se sont inscrits dans cette législation. On rejoint un train qui était déjà en marche. Ce qui est paradoxal, c'est que il n'y a aucun fondement constitutionnel ni légal par rapport à cette reconnaissance. Et dans mon livre, ce que j'ai essayé de faire comme exercice, c'est aussi de... il ne suffit pas d'identifier et de diagnostiquer des dysfonctionnements. Il faut également proposer des pistes pour améliorer ce plat, pour améliorer le dosage des ingrédients. Eh bien, il y a des choses qui peuvent être modifiées, c'est de prévoir une assise constitutionnelle pour la reconnaissance, chose qui manque aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une pratique administrative du gouvernement. Ça renvoie à l'idée d'un arbitraire absolu. Or, au fil du temps, se sont dégagés de cette pratique administrative une série de critères en réalité. Ça n'est pas un no man's land juridico-politique. Et ces critères, ce sont essentiellement le nombre d'adhérents. C'est l'ancienneté de l'implantation sur le territoire, c'est l'utilité sociale et c'est la compatibilité avec l'ordre public. Dès lors qu'une communauté convictionnelle parvient à faire la preuve que ces critères sont réunis, il pourrait théoriquement prétendre s'inscrire dans le jeu de la reconnaissance, qui n'est pas effectivement purement symbolique, ça renvoie à des considérations pratico-pratiques très claires. Mais encore une fois, il y a des améliorations possibles et même souhaitables. Cependant, je ne suis pas de ceux qui jettent le bébé avec l'eau du bain, il y a une objectivation relative et aussi un certain pluralisme, puisque, on l'a vu, ça n'est pas un culte, ça n'est pas deux cultes, ça n'est pas trois cultes, c'est six cultes plus un. Pour être parfaitement complet, il y a un septième culte, entre guillemets, qui est en chemin, le bouddhisme. Et depuis quelques années déjà, c'est déjà depuis 2008 qu'une première subvention a été accordée pour que cette communauté convictionnelle puisse s'organiser, justement s'institutionnaliser suffisamment que pour rejoindre le club des cultes reconnus. Ce qui est paradoxal, c'est que la cause n'a pas d'assise constitutionnelle, mais l'effet, bien. Donc la reconnaissance n'a pas d'assise constitutionnelle, mais la conséquence de la reconnaissance, à savoir le financement, cette conséquence a une assise constitutionnelle. C'est un peu le paradoxe également en la matière. C'est l'article 180 de la Constitution, qui a deux paragraphes. Pourquoi deux paragraphes? Le premier concerne les six, le deuxième paragraphe concerne le plus un. Ce qu'on a appelé la laïcité organisée, et je ne peux que répéter, même si le débat est ouvert, que selon moi c'est une erreur d'avoir appelé ça laïcité. On aurait gagné en termes de clarté à appeler ça autrement, quelque chose de plus fidèle à la conviction philosophique qui est représentée. Mais ce à quoi ça renvoie, c'est essentiellement le traitement et la pension des ministres des cultes. En d'autres termes, la rémunération des imams, des rabbins, des prêtres, etc., est prise en charge par l'État sous réserve que ce dont on parle, ce soit un culte reconnu. En d'autres termes, le financement ne concerne pas les cultes qui ne sont pas reconnus. Ça paraît aller sous le sens, mais il faut insister là-dessus. Ce qui est d'ailleurs très intéressant, parce que autant l'article 180 de la Constitution ne concerne que les cultes reconnus, autant, j'insiste, l'article 21 de la Constitution, les articles 19 et 20 de la Constitution, eux, bénéficient à n'importe quel culte, qu'il soit reconnu ou pas. Ça n'enlève pas le bénéfice de ces dispositions constitutionnelles à ceux qui ne sont pas dans le jeu de la reconnaissance. Simplement, pour bénéficier en plus de ça, du financement, il faut être dans le club, effectivement, des cultes reconnus. Qu'est-ce que ça concerne, le financement? C'est on ne peut plus d'actualité. D'une part, la possibilité de reconnaissance des lieux de culte. En d'autres termes, une mosquée qui réunirait une série de conditions administratives, fiscales, comptables, et qui bénéficierait à son tour d'un financement. Des services d'aumônier rétribués dans les hôpitaux, dans les prisons, etc. Les cours philosophiques dans l'enseignement officiel. Les cours philosophiques dans l'enseignement officiel se calquent sur la réalité du nombre de cultes reconnus. C'est ce qui explique cela. Des émissions télé et radio, en d'autres termes un temps d'antenne, ce qu'on appelle des émissions concédées. On l'a vu, le traitement des ministres du culte, matière fédérale, mais également ce qu'on appelle l'intervention dans le déficit des fabriques d'églises. En d'autres termes, j'invente une synagogue qui aurait besoin d'élargir une aile en particulier, ça implique des travaux, des frais, eh bien, peut prétendre à une intervention des pouvoirs publics, c'est ce qu'on appelle l'intervention dans le déficit des fabriques d'églises. Mais là où le bas blesse, c'est que sociologiquement parlant, il y a une réalité, et financièrement parlant, il y en a une autre. Aujourd'hui, 85% du financement public bénéficie à l'Église catholique. Donc là encore, ça n'enlève rien, selon moi, au caractère laïque de l'État, mais en termes de dosage, il y a clairement une réflexion à mener sur une redistribution beaucoup plus égalitaire des moyens, qui doit correspondre à la réalité sociologique. Et donc des améliorations, encore une fois, sont possibles par rapport au financement aussi. Mais là où ça devient véritablement intéressant, on peut avoir les désaccords qu'on veut par rapport à la Belgique, c'est quand on analyse de plus près la France. Le principe, effectivement, c'est l'article 2 de la loi de 1905, qui vous dit, qui vous assène, que la République ne reconnaît, ne salarie, ne subventionne aucun culte, point, fin de la discussion, chacun peut rentrer chez soi. Sauf que, en France, il y a une administration des cultes qui préexistait à la loi de 1905, qui n'a pas été supprimée. En France, il y a un bureau central des cultes qui existe depuis 1911, qui s'occupe en particulier du dossier Alsace-Moselle, mais qui a également participé de très près à la mise sur pied de ce qu'on appelait le Conseil français du culte musulman. Il y a en France des dossiers, certains dossiers de nomination des évêques qui présupposent la consultation du gouvernement. Donc les évêques d'Alsace-Moselle, mais également ceux de la métropole, ceux du reste du territoire de la République, la pratique établie, c'est de consulter le gouvernement. Ça ne veut pas dire que le gouvernement doit donner son aval, son approbation, mais il y a un échange de bons procédés. Est-ce que telle personne, est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien. Donc c'est essentiellement, je caricature à peine dans ce registre-là. Il y a un conseiller juridique auprès du ministère des Affaires étrangères depuis 1920. Alors on pourrait considérer que ce sont des points de détail à la marge. D'accord? Continuons. Ce n'est pas tout. En France, il y a un financement de la part de l'État sur l'ensemble du territoire des aumôneries catholiques, protestantes, israélites et islamiques à l'armée et dans les prisons. En France, et ça, bon, c'est assez notoire, il y a diffusion à la télévision publique d'émissions religieuses. En France, et ça c'est un fait plus marquant, il y a mise à disposition et entretien à titre gratuit de tous les lieux de culte d'avant 1905. Ben évidemment, si on doit préciser les choses, qu'est-ce qu'il y avait surtout avant 1905? Des lieux de culte catholiques. Donc cela bénéficie à titre totalement gracieux d'une mise à disposition et d'un entretien. Alors on pourrait se dire, oui mais c'est pas encore assez convaincant. Bien, continuons. En France, en vertu d'une loi de 1959, il y a financement de l'enseignement privé catholique sous contrat par l'État. Et ça n'est pas de babiole, ça représente plus de 2 millions d'élèves et plus de 17% de l'effectif des élèves avant l'université. Qu'est-ce que ça veut dire ce financement? Eh bien, il y a un contrat qui est établi entre ces établissements et l'État, en vertu duquel il y a une aide en contrepartie d'un alignement sur le programme de l'enseignement public et d'une inspection obligatoire. Tiens, tiens, ça semble renvoyer à une réalité bien connue en Belgique, à savoir l'enseignement libre, notamment catholique, puisque qu'est-ce que ça présuppose? Ça présuppose que les écoles du réseau libre catholique peuvent certes avoir leur propre projet pédagogique, mais doivent s'aligner sur le décret mission avec un socle de compétences, avec des cours, avec des exigences à satisfaire, des examens à faire passer, et c'est en contrepartie de cet alignement aussi qu'il y a un financement public. Et cette aide, concrètement, c'est la prise en charge des rémunérations des enseignants et des charges fiscales et sociales qui s'y rapportent. C'est pas tout. Il y a également des sommes d'argent qui visent à couvrir les frais de fonctionnement de ces écoles. Si vous n'êtes pas encore assez convaincu, continuons. En France, il y a une région à part entière, qui s'appelle l'Alsace-Moselle, qui n'est même plus régie par la loi dite de laïcité de 1905. C'est le concordat, c'est le système napoléonien, c'est le concordat de 1801 et ce sont les lois organiques de 1802 qui régissent le territoire. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que il y a en tout et pour tout 4 cultes reconnus sur ce territoire-là. Reconnus, donc financés. 4, pas 6 plus 1, 4 moins. Donc peut-être moins de pluralisme. Ça amène à réfléchir. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont les cultes catholiques, les cultes israéliques, protestants luthériens et protestants réformés qui sont reconnus et financés, aucun autre. Le financement pour la rémunération des ministres des cultes. Tiens, ça semble renvoyer à ce qui s'applique en Belgique, simplement sur tout le territoire, mais qui bénéficie à un nombre d'acteurs plus variés, plus divers, c'est plus pluriel. Alors là où on atteint des sommets, évidemment, c'est que les évêques de Metz et de Strasbourg sont nommés par décret présidentiel. Là, on n'est même plus dans une pratique de bon procédé avec une consultation. On est dans un décret présidentiel qui désigne, qui nomme les évêques de Metz et de Strasbourg. Enfin, en France, il y a 2 départements, la Guyane et Mayotte, qui sont régis pour le premier totalement, pour le second en partie, par un droit religieux. Et que je sache, la Guyane et Mayotte, c'est la France. C'est pas une autre planète. En Guyane, c'est un droit d'ordre religieux spécifique qui s'applique, c'est une ordonnance royale de 1828. Seul le culte catholique est organisé et financé. À Mayotte, jusque récemment, c'était le droit musulman qui s'appliquait. Ça a été nuancé il y a quelques années. Depuis quelques années, c'est le droit commun qui est la seule référence légale, donc le droit civil. mais avec des éléments toujours de droit musulman. Par exemple, parmi ce qu'on retrouve dans cette réalité institutionnelle, le cadi, donc le juge, dispose d'un pouvoir de médiation, notamment en matière familiale. Tout ça m'amène à dire, pour des raisons propres au débat intra-belge, parce que ce que moi j'identifie, c'est un pluralisme relatif, c'est une diversité relative, c'est un processus de tendre vers une forme d'égalisation. Eh bien, je considère qu'en Belgique, il y a une laïcité institutionnelle, même si elle peut être améliorée, on le voit, tant au niveau de la reconnaissance qu'au niveau du financement. Mais pour des raisons liées à la réalité de la France, avec laquelle on ne cesse de comparer la Belgique et en contrepoint de laquelle on considère que la France c'est un État laïque, la Belgique c'est un État neutre, on voit qu'en France, l'article 2 de la loi de 1905 est contredite à maintes et maintes et maintes reprises par la réalité. Donc ça n'est pour moi pas un argument pertinent de simplement décréter que s'il y a quelque part de la reconnaissance et du financement, cela disqualifie l'État de l'étiquette d'État laïque. Mais encore une fois, j'insiste sur cette métaphore culinaire que j'aime bien, le plat peut être très clairement amélioré sur comment on dose les ingrédients. Alors les cours philosophiques dans l'enseignement officiel, le fondement en Belgique, l'article 24, un article très présent dans les débats depuis maintenant pas mal de temps, en particulier, le choix entre l'enseignement d'une des religions reconnues et celui de la morale non confessionnelle. Ça me paraît déjà plus fidèle à ce que ça veut dire. Je préfère encore cette formule à la formule morale laïque. Encore une fois, j'ai des désaccords avec cette terminologie-là. La source, c'est le pacte scolaire, loi de 1959. Alors, encore une fois, j'en reviens au fil conducteur de mon argumentation. On pourrait s'arrêter à l'apparence et dire, voilà, il y a des cours philosophiques dans l'enseignement officiel, c'est bien en soi la preuve qu'il faut disqualifier l'État belge du club des États laïcs. Je pense que c'est se tromper. Je pense que le véritable aiguillon, encore une fois, c'est ce qu'on appelle la non-ingérence réciproque. Ça se traduit comment dans l'enseignement? Ça veut dire que tant que l'autonomie doctrinale qui est implémentée, qui est traduite dans les cours philosophiques concernés, est garantie, eh bien le principe de non-ingérence réciproque est garanti, donc le principe de laïcité est garanti. En d'autres termes, il est interdit au pouvoir public de s'ingérer dans le contenu des cours. Là où l'État violerait le principe de laïcité, c'est en se substituant à la communauté confessionnelle et en élaborant le contenu du cours, en choisissant sur une base théologique quels enseignants peuvent donner ce cours. C'est là que l'aiguillon se trouve de mon point de vue. Et en Belgique, ce principe, il est relativement respecté. Je dis relativement parce qu'il y a une exception paradoxale majeure, et l'exception est là où on ne l'attend pas. C'est que la seule exception à ce que je viens de vous expliquer, c'est précisément le cours de morale non confessionnelle. Aujourd'hui, en communauté française, en Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est la Fédération Wallonie-Bruxelles qui concocte le contenu du cours de morale non confessionnelle. C'est la communauté française qui choisit et désigne les enseignants de morale non confessionnelle. C'est une exception paradoxale, fondamentale au principe. Il y a néanmoins une limite au contenu du cours, parce qu'évidemment, on pourrait, si on se limitait à ça, ouvrir la porte à toute forme de dérive. Sous prétexte de ne pas s'ingérer dans le contenu du cours, on pourrait lire tout dans ces cours. Non. Article 24, paragraphe 3 de la Constitution, la seule limite, c'est le respect des droits fondamentaux. Si le contenu d'un cours contrevient à notre droit pénal, pour prendre l'exemple le plus clair, eh bien, il est évident que l'autorité qui a la mission fondamentale de faire respecter ce droit commun, eh bien, pourrait intervenir. Mais il y a une différence entre cette intervention pour rappeler les règles civiles et l'intervention dans le contenu théologique dogmatique du cours. C'est ça ce que signifie le principe de non-ingérence réciproque. Alors, la liste de cours philosophiques dans l'enseignement officiel est limitée. Ben, limitée parce que les cultes reconnus sont limités. L'un est la conséquence de l'autre. Comment, en tout cas en Belgique, cela fonctionne? Eh bien, jusque récemment, la participation des élèves était obligatoire. Mais quid d'un élève bouddhiste qui ne se retrouve dans aucune des offres? On peut clairement considérer que c'est une violence symbolique énorme. Si ça n'est pas pour l'élève, c'est pour ses parents, ceux qui ont l'autorité parentale. C'est la raison pour laquelle en Flandre, et en Flandre comme souvent, petite parenthèse, sur ce sujet comme sur bien d'autres, on est allé beaucoup plus vite. Il y a un décret spécial qui existe depuis 1998 qui prévoit un mécanisme de dispense. L'élève qui ne se retrouve pas dans une des options peut être dispensé de participation à une des options. C'est un, entre guillemets, un moindre mal. Il n'y a pas l'option qui lui conviendrait sur une base convictionnelle, mais on va en tous les cas pas l'obliger à participer à un cours dans lequel il ne se reconnaît pas lui ou ses parents. En Fédération Wallonie-Bruxelles, il a fallu attendre un arrêt de la Cour constitutionnelle de mars 2015, donc ça n'est pas avant Mathusalem, c'est très récent. Un arrêt d'ailleurs auquel on a fait dire à peu près tout ce qu'il ne dit pas. Cet arrêt, pour moi, est salutaire. Il rappelle qu'on ne peut pas obliger les élèves à participer à un cours philosophique dans lequel ils ne se reconnaissent pas. Excellente nouvelle. Mais il y a un autre point que la Cour constitutionnelle a rappelé, c'est que le cours de morale non confessionnelle n'est pas un cours neutre. Puisque jusqu'ici, on disait, si vous n'êtes pas satisfait d'une des six options, il y a le cours de morale, voilà, celui-ci vous convient. Ce que la Cour constitutionnelle dit, et je m'en félicite à titre personnel, c'est que ce cours-là n'est pas neutre. Mais par la force des choses, dès lors qu'on l'a inclus dans le jeu de la reconnaissance propre au culte, et surtout dès lors que cette conviction, elle s'inscrit dans une dynamique emmenée par le cal d'un côté et par Domens Nu de l'autre, qui se base donc sur ce que eux appellent la laïcité philosophique, qui signifie donc, selon moi, l'athéisme et ou l'agnosticisme. Mais fatalement, on ne peut pas considérer que c'est un cours neutre. Mais évidemment, le politique s'est emparé de ce dossier et on a surtout parlé de suppression de cours philosophiques. Et en réalité, quand vous lisez l'arrêt de la Cour constitutionnelle, en l'occurrence, la Cour constitutionnelle ne parle pas de ça. Mais le temps politique est ce qu'il est, et bon, aller lire un arrêt de la Cour constitutionnelle dans le temps médiatico-politique, c'est fastidieux, et donc le rythme médiatique a été tout autre que ce que le contenu de la Cour constitutionnelle prévoit, et donc le débat porte aujourd'hui sur la suppression de cours philosophiques. Et je dois vous avouer que là-dessus, je n'ai pas d'avis arrêté. Pour moi, qu'on ait des cours philosophiques dans l'enseignement public ou pas, ça n'est pas pour moi un cheval de bataille, ça n'est pas pour moi quelque chose de déterminant. Là où je ne suis pas d'accord, c'est de considérer que sous prétexte qu'il y en a, il y a une entorse au principe de laïcité. C'est sur cette base-là que le désaccord se trouve. Il pourrait y avoir des cours philosophiques dans l'enseignement officiel. Et dès lors qu'on respecterait l'autonomie doctrinale qui fait partie du principe de non-ingérence réciproque, le principe de laïcité serait sauvegardé, comme on pourrait ne pas avoir du tout de cours philosophiques dans l'enseignement officiel, que le principe de laïcité, pour moi, serait tout aussi sauvegardé. En France, revenons vers le cas de l'Alsace-Moselle. Certes, la métropole ne connaît pas cette réalité en France, mais l'Alsace-Moselle repose sur exactement le même système que celui qu'on connaît en Belgique. En France, c'est de nouveau le concordat de 1801, de nouveau les lois organiques de 1802 qui s'appliquent et qui prévoient un cours de religion obligatoire dans les écoles publiques d'Alsace-Moselle, aussi bien dans le primaire qu'au collège. Il y a néanmoins une dispense possible. Les élèves du primaire assistent alors au cours de morale. Alors, voilà une différence à laquelle a permis d'aboutir l'arrêt de la Cour constitutionnelle en Belgique. Les collégiens, eux, sont simplement dispensés. Et donc tout ça pour dire que, selon moi, encore une fois, la présence même de cours philosophiques dans l'enseignement officiel, ça n'est pas un argument pertinent pour disqualifier la Belgique en termes d'état laïque. Alors, les règles protocolaires, ce qu'on appelle les règles de préséance, là, il y a du travail en Belgique. Là, il y a des choses qui, clairement, doivent faire l'objet d'une amélioration. Comment se fait-il qu'en Belgique, dans les règles protocolaires, le numéro uno, ce soit le cardinal de Belgique? Sans préjuger ou juger de l'individu, de l'institution, ça ne me regarde pas. Mais sur le plan principiel, sur le plan institutionnel, les règles de préséance étant les règles protocolaires, ce n'est pas normal que ce soit le cardinal de Belgique qui soit en première position dans cet ordre. De même, il n'est pas normal que ce soit le nonce apostolique qui soit le doyen des diplomates et qui, à ce titre, soit en seconde position. Ce qui n'est pas normal non plus, c'est que, contrairement à ce culte-là, les autres cultes ne figurent qu'en 73e place. Donc il y a d'une part un problème sur le fait même de la place de l'Église catholique dans les règles protocolaires, mais il y a aussi un sous-problème, sans vouloir le minimiser, qui est un traitement discriminatoire parmi les cultes. Les premiers politiques arrivent en 4e place. Le Premier ministre n'arrive qu'en 6e place, et les parlementaires arrivent en 74e place, juste derrière les représentants des autres cultes reconnus. Donc là, il y a très clairement des choses qui doivent être revues, et c'est tellement vrai qu'à l'heure actuelle, la norme qui régit cette matière, c'est encore un décret impérial de 1804, dont le gardien est le ministre de l'Intérieur. Donc là, il y a clairement une amélioration du plat qui certainement est possible. Par ailleurs, la participation des autorités publiques aux cérémonies religieuses, alors là, j'ai un avis nuancé. Je ne suis pas de ceux qui considèrent que sous prétexte qu'on est Premier ministre, on ne doit plus participer à aucune cérémonie religieuse. Parce que je considère que ces individus, ces personnes, ont aussi le bénéfice de l'article 19 de la Constitution. En revanche, que cette participation se fasse au nom de l'État, là, il y a une difficulté pour moi. En d'autres termes, que le Premier ministre décide en son nom personnel de participer à cette cérémonie, très bien. Il est un citoyen comme les autres, il a le bénéfice de la liberté religieuse comme les autres, mais pas au nom de l'État, pas en tant que dépositaire de cette fonction publique qu'est la sienne. Donc pour moi, ce n'est ni le fait d'être totalement contre la participation à ces cérémonies, ni le fait qu'il n'y a aucun problème dans le fait de participer avec son étiquette d'agent public. C'est une voie médiane que je propose pour améliorer l'application du principe de laïcité à cet égard. Enfin, l'inscription du mot laïcité dans la Constitution. Ça fait quand même un certain nombre d'années qu'une série d'intervenants du débat public sont tellement convaincus du bien fondé de cette position qu'ils en ont créé des associations dont l'objet est l'inscription de la laïcité dans la Constitution, avec le raisonnement qui consiste à dire que c'est parce que la laïcité n'est pas inscrite dans la Constitution, encore une fois, que la Belgique n'est pas un État laïque. D'ailleurs, l'adjectif laïque n'est pas non plus dans la Constitution. Bref. Ça m'a d'autant plus intéressé qu'en épluchant la Constitution, je me suis dit, tiens, mais est-ce que le mot démocratie est dans la Constitution? Et en fait, quand vous lisez la Constitution, nulle part n'y figure le mot démocratie. Nulle part n'y figure non plus le mot démocratique. Est-ce à dire que la Belgique n'est pas un État démocratique? Est-ce a fortiori dire que la Belgique ne sera un État démocratique que le jour où on aura revu la Constitution pour inscrire le mot dans la Constitution? Donc vous le voyez, pour moi, c'est un raisonnement assez peu pertinent, largement superficiel. Et pour cause, ce qui est déterminant, ce n'est pas, encore une fois, le mot. Ce qui est déterminant, c'est le principe sous-tendu par ces ingrédients. Si vous inscrivez le mot, mais qu'il n'y a ni égalité, ni non-discrimination, ni liberté, a fortiori, de la liberté religieuse, ça me fait une belle jambe en tant que citoyen épris de laïcité, qu'on ait inscrit le mot dans la Constitution. Et le contraire est, par conséquent, vrai aussi. Il peut y avoir absence du mot, mais consécration des principes qui donnent corps, vie à ce mot. Et je considère que la Belgique fait partie des États qui peuvent se targuer d'être dans cette catégorie. Enfin, j'attire aussi l'attention sur le fait que la laïcité ne figure pas non plus dans la loi mère de la laïcité, la loi de 1905. Conclusion, la Belgique est un État laïque. La Belgique est même un État plus laïque que la France. Je pense l'avoir largement montré, mais évidemment on peut en débattre. Simplement, je pense aussi que contrairement à certains constitutionnalistes, il ne faut pas s'arrêter là et édicter, faire exactement le contraire de ceux qui affirment que parce que le mot n'y est pas, il n'y a rien, à savoir les ingrédients y sont, donc le débat est clos en Belgique, ne touchons surtout à rien. Non, il y a largement de quoi améliorer la situation en termes de respect, en termes de fidélité au principe de laïcité, également en Belgique. Donc le dosage des ingrédients est toujours possible. Je vous remercie pour votre attention.